Alors, on est dans le dernier dimanche de l'Avent, et juste pour rappeler un petit peu pour ceux qui ne rappellent pas ou pour ceux qui ne savaient pas, on a commencé plutôt avec le chant de Marie, le cantique de Marie, appelé aussi le Magnificat. On a eu le chant des anges. La semaine dernière, c'était le chant de la maman de Lucie. Celui-là, vous ne le connaissiez pas, hein. Et puis, aujourd'hui, on arrive au blues de Siméon. Siméon, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Déjà, quand j'étais enfant, je ne sais pas pourquoi j'aimais cette petite histoire-là, ce petit texte dans les récits de Noël. C'est parce que j'étais déjà quelqu'un de très mélancolique et nostalgique, même à 10 ans. Parce que j'ai toujours eu la nostalgie du futur. Hein, on va en parler un petit peu ce matin. Siméon, c'est donc le bébé Jésus est né, les anges sont venus, les rois mages sont venus, repartis, les bergers sont venus, repartis. Et puis, les parents, c'est des gens normaux dans leur culture de l'époque. Hein. Ils font tous les rites qu'il faut faire dans la tradition où ils étaient. Et une des choses, c'était d'aller présenter l'enfant au temple au bout de quelques jours. Hein, on le trouve ça dans Luc 2. C'était le huitième jour, Luc 2, 21, le jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé, on lui donna le nom de Jésus, donc avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu. Et puis, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, donc il y avait encore un délai pour la maman, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, puisqu'ils n'y étaient pas, pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit, la loi du Seigneur, on le présentera, etc. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste. Et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, on est avant la Pentecôte qui a marqué le début de l'Église. L'Esprit Saint allait et venait sur les gens comme ça, mais ils n'avaient pas le privilège que nous avons, nous, d'avoir Christ en nous. Et puis... hein, voilà, il est avec nous tout le temps. Mais cet homme-là fait partie de ces personnages avant le moment où l'Esprit est donné à tous, qui vivaient dans cette communion avec l'Esprit de Dieu et qui étaient conduits par lui. Et c'est pour ça, c'est pas par hasard, bien sûr, qu'il est exceptionnel. Hein. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple. » Et son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, mais les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. » Beaucoup de choses là, mais les parents, bien sûr, comme nous tous, quand on vit les choses, on ne les comprend pas. Hein. C'est souvent longtemps, très longtemps ou très longtemps après, on repense, on se dit « Ah !» Il s'est passé ça. Ça, bien sûr, ça a été écrit par Luc des années après, avec les récits qu'il avait. Mais ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. On dit que cette rencontre entre Jésus et Siméon qui l'attend dans le temple, c'est l'ancienne alliance qui accueille la nouvelle. Siméon, ce prophète de l'Ancien Testament, qui vient, qui accueille le bébé. Et puis après, c'est pas qu'il était pas bon, mais qu'il va se retirer exactement comme Jean-Baptiste, qui lorsqu'il va voir Jésus arriver dans le désert, va dire « Ah, il faut qu'il croisse et que je diminue. J'ai fait mon job, et maintenant, pouf, je me retire doucement, et puis lui, il peut arriver. » Et dans mon petit livre d'histoire de Noël, quand j'ai essayé de mettre dans la peau du personnage de Siméon, l'image que j'avais et que j'ai découverte en vivant ici, dans cette région, au début, j'étais surpris en arrivant ici, parce qu'il n'y a pas ça chez moi, pas chat justement, hein. Ça chez moi, dans le sud de la France, ces chats qui passent des heures dans les pâturages à côté d'une taupinière. Pour vous, c'est peut-être quelque chose de banal, hein, mais moi, j'étais fasciné par ces chats qui peuvent rester une heure, deux heures, sans bouger. On dirait que c'est des statues, quoi. Et puis pour le moment, malheureusement pour la souris, hein, où elle sort, et pouf, voilà. Hein. Mais cette attente qui est, ils ne dorment pas, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas un biologiste, mais à la fois ils sont tendus et détendus, parce qu'ils ne bougent pas pendant très longtemps, mais en même temps ils sont prêts à bondir, hein, pour attraper leur proie, quoi. Et Siméon, pour moi, c'est quelqu'un qui a passé la plus grande partie de sa vie comme ça, dans une attente active, tendue et détendue, à attendre une promesse qui lui avait été faite. Tu ne partiras pas de cette vie sans avoir vu ce que tout le monde attend sans savoir ce que c'est. Lui-même ne savait pas exactement ce que ça serait, quelle forme ça aurait. Il a juste cette promesse-là, hein, et il sait que Dieu est fidèle, il est rempli de l'Esprit et il attend. Et c'est magnifique parce que il y a des formes d'attente qui sont du renoncement, du résignement, mais en fait, ce n'est pas de l'attente, on n'attend plus rien. Hein. On est déprimé, découragé ou abattu, et puis on attend de mourir, on dit, mais ce n'est pas une attente. Et puis il y a des gens qui vivent sans rien attendre, parce qu'ils sont trop occupés à faire des choses, à avoir des projets, à penser qu'on va changer le monde, on va faire ci, on va faire ça, on va y arriver, on va travailler, on va faire plus, qui est bien sûr souvent un gros pansement pour cacher beaucoup, beaucoup, beaucoup de vide et de souffrance. Hein. Et Siméon, il n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Il est éveillé, il est en communion avec l'Esprit de Dieu, il est rempli de cette attente, qui est une attente magnifique, et le temps passe, et on ne sait pas, mais on sait qu'il était âgé, hein, alors je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque, être âgé, mais en tout cas, ça voulait dire qu'il avait passé la plupart de sa vie sans voir ce qui lui avait été promis, mais il était paisible, et en même temps tendu, parce qu'il l'attendait. Hein. Et j'aime tellement cette attitude-là, et je trouve que là-dedans, il y a un enseignement pour nous qui est magnifique. Comment nous vivons devant Dieu, hein, dans cette attente qui à la fois n'est pas un endormissement du tout. Au contraire, on est là et on a le regard qui se promène pour savoir où la vie de Dieu va jaillir pour pouvoir l'embrasser. Et en même temps, quelque chose de paisible parce que bah, ce n'est pas nous qui allons le fabriquer. Et Siméon, ce n'était pas celui qui devait être le sauveur, fabriquer le sauveur, même pas accompagner le sauveur, mais juste le voir arriver et le reconnaître. Il y a un vieux chant que j'aime beaucoup et qui souvent m'accompagnait. Et une des phrases, c'était « Reconnaître ta voix à chaque instant du jour ». Quelle autre plus belle mission avons-nous dans nos journées, au travers de nos activités, de ce qu'on a à faire pour on est sur Terre, hein, pour vivre, etc. Reconnaître ta voix à chaque instant du jour. Et c'est l'attitude de Siméon qui est là, et puis qui guette ça. Mais finalement, cet enfant arrive, et il accueille, et là, il va donner des paroles prophétiques, hein, il va expliquer que, en fait, cet enfant, il n'est pas là juste pour un peuple, une tribu, une petite caste, un petit groupe pour des gens. Lumière des nations, il est là pour... Ouais, mais il sera aussi un sujet de contradiction. Quand Jésus passait quelque part, il n'y avait jamais d'indifférence. On voulait soit le suivre, soit le tuer, pas moins. Soit on laisse tout et on le suit, soit alors on veut le tuer parce qu'il dérange. Et c'est toujours ce que fait le travail de Dieu lorsqu'il passe quelque part. Aux uns, une odeur de vie qui mène à la vie, dit Paul, et aux autres, une odeur de mort qui mène à la mort. Et c'est la même chose. Hein, ben, c'est des gens qui dérangent, qui bousculent, qui ne sont pas dans l'eau tiède, dans le compromis, dans le mauvais sens du mot compromis. Il y a des bons compromis qu'il faut savoir faire, mais là, c'est dans ceux qui viennent, il provoque des choses, et puis il amène une joie, un bonheur extraordinaire, et aussi... Bah, c'est annoncé à sa maman, hein, une épée te transpercera le cœur. Sur le chemin de ceux qui suivent le Christ, il y a ce contraste entre cette plénitude, ces moments de joie incroyables, de paix, et puis ces épées qui nous transpercent le cœur. Parce que bah, on suit quelqu'un qui est toujours en mouvement, et ce n'est pas facile, parce que ça veut dire qu'on doit sans arrêt tout laisser pour repartir. Hein. Et c'est là que Siméon est extraordinaire, et moi c'est ce qui me touche, et je pense que c'est déjà ce qui me touchait quand j'étais enfant, ado, et que j'aimais ce personnage, et un chant que je vous ferai peut-être écouter, on va faire de l'archéologie ce matin encore plus, mais que j'écoutais beaucoup quand j'étais tout jeune ado. Mais il est dit, maintenant, tu laisses ton serviteur partir en paix. Ça, c'est magnifique. On connaît tous, et ce n'est pas forcément un message pour les retraités, hein, que ce que je dis ce matin, parce que dans toutes nos étapes de nos vies, pour passer à la prochaine, on doit laisser quelque chose. Il y a des gens qui vont devenir parents, ils vont quitter définitivement l'état de personnes sans enfants. Ils vont rentrer dans autre chose. Il y a des gens dont les enfants quittent la maison. Il y a des gens qui changent de travail, on change de pays. Notre vie est faite d'étapes. Si on est vivant, on est en mouvement. Et rappelez-vous, on en a beaucoup parlé au cours de cette année, hein, Christ, c'est l'homme qui marche. Il est toujours en mouvement. Et quand les gens veulent le suivre, bah, il leur dit bah, « suis-moi, mais tu vis où ?»« Bah, je ne sais pas, tu dors où ?»« Bah, je ne sais pas, tu manges quoi ?»« Bah, on verra. » Et puis, il va se passer quoi ?« Bah, suis-moi. » »« Oui, mais et les autres ?»« T'inquiète, toi, suis-moi. » Et suivre le Christ, c'est toujours être en mouvement. Mais toujours être en mouvement, ça veut dire sans arrêt laisser des choses. Alors, il y a des étapes dans nos vies, et puis on se pose un moment, et on fait ci, on fait ça. Et puis on fait ce qu'on a à faire, surtout. Et puis vient le moment où on a fait ce qu'on avait à faire là, et on doit faire ce que Siméon fait là, qui est magnifique. Il n'est pas dans, comme les disciples, « Ah, mais alors, puisque c'est le roi qui vient, quand il sera roi, je veux être ministre dans son gouvernement, je veux être le premier, je veux être ci, je veux être ça, puis j'aimerais qu'il y ait une stèle avec mon nom, parce que quand même, c'est moi qui l'ai accueilli dans le temple. » Siméon, il est magnifique dans sa liberté, dans son humilité. Il avait une chose à faire. Il a sûrement fait plein d'autres choses, hein, mais il avait une mission particulière qui était accueillir cet enfant et dire quelques phrases d'annonce, de prophétie sur lui. Et quand il l'a fait, il a cette paix qui vient de « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Il n'y a pas ce souci de « mais qu'est-ce qui va se passer après ?» Et si les méchants veulent le tuer ? Et s'il y a des gens qui veulent du mal ? Et puis si on ne l'écoute pas ? Et si ça se passe mal ? Et qui va faire ça ? Et comment ? Ce n'est pas son problème. Et on doit apprendre à vivre comme ça. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Qu'est-ce qui m'est confié ? Quelle est ma tâche aujourd'hui ? Et bien sûr, il faut se poser les questions. Gaël disait, peut-être qu'il y a des gens qui ne se posent pas la question. C'est quoi la volonté de Dieu pour moi ? Hein ? Alors, on doit se poser des questions. Mais quand on a la conviction qu'on a quelque chose à faire, on doit aussi savoir qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas éternel, et on n'a pas une chose à faire toute notre vie. Et quand elle est faite, de pouvoir dire « Waouh, c'est fait. Ciao. Je m'en vais dans la paix, tranquillement, parce que mes yeux ont vu ce que j'avais à voir, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Et bien sûr, ben, Siméon vit ça, on voit Jean-Baptiste vivre ça de façon magnifique. Hein, non, allez-y, suivez-le. Comment ça ? Mais attends, mais tu es juste au début, là, tu commences à avoir du succès, on vient te voir au Jourdain, tu pourrais devenir quand même un grand prédicateur. Non, non, j'ai fait mon job. J'étais là juste pour aplanir son chemin. Maintenant, suivez-le. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Il n'y a aucune amertume, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de oh, « pourquoi c'est lui, il est plus grand que moi, hein, j'étais quand même bien, il aurait pu me prendre. » Non, non, j'ai fait ce que j'avais à faire et je m'en vais en paix, tranquillement. Parce que c'est des gens qui ont compris ce que le prophète Ésaïe disait, « Seigneur, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour moi, pour nous. » Tu me donnes la paix par tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis pour moi. Et quand j'ai fait ce que j'avais à faire, ben le monde va continuer de tourner sans moi et les choses vont continuer d'aller où elles doivent aller et les choses vont se faire comme elles vont. Et moi, c'est quoi ma prochaine étape ? Et Siméon, ben, je ne sais pas s'il a vécu longtemps après ou pas, il a fait l'autre chose ou pas, peut-être, j'en sais rien. Mais cette leçon, elle est magnifique. Et c'est aussi ce que le Christ a fait, hein. Il vient, il a son parcours, il apprend la menuiserie, etc. Ben là, il grandit. Et puis, trois petites années de ministère, hein, de service actif, on va dire. Ben, il était actif depuis qu'il était né, mais il fait ce qu'il a à faire. Et puis, il s'en va. Puis, il ne dit pas, ah, mais si j'avais pu rester un an de plus, mais quand même, avec tout ce que je sais faire, j'aurais pu les aider, les accompagner. Et puis faire... Non. Il a fait son temps et il s'en va. Et puis, bien sûr... il nous envoie le Saint-Esprit. Mais Paul vit la même chose. Quand Paul sait, parce que voilà, il sait que c'est la fin, hein, puis lui, il en a pris des coups, lui. Hein, quand vous lisez la liste de ce qu'il a vécu dans... Hein, lapidé, je ne sais pas combien de fois, quelques naufrages, perdu dans la mer, accroché deux jours et deux nuits à une poutre du bateau avant d'être jeté, mordu par un serpent, lapidé, combattu contre des bêtes dans des arènes, enfin, une vie de fou, quoi, toujours en voyage, à bosser comme un malade. Enfin. Et puis à un moment, ben, il sait qu'il arrive au bout, mais il ne laisse pas une bonne situation. Hein. Quand il écrit dans Timothée, voilà, pour moi, la course est bientôt finie, j'ai combattu le bon combat, j'ai été jusqu'au bout, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, voilà, je vais passer la ligne d'arrivée, ciao les gars, je m'en vais, ça va bien. Il laisse des églises où il y a des hérésies, où les gens se disputent, où ça va mal, il laisse de la persécution. Et... Hein, il n'est pas inquiet, il a fait ce qu'il avait à faire, il est arrivé au bout. Ciao les gars, hey, Dieu est Dieu et je ne suis pas Dieu. Hein, et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et c'est magnifique. La paix qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire. Et moi, je suis admiratif de ces gens. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit apprendre à vivre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre à vivre. Justement, pourquoi, pour certaines personnes, et surtout les hommes, ça peut être un drame, la retraite ? Parce que d'abord, ils n'ont pas appris ça. Et puis, parce qu'ils partent alors qu'ils pensent que... Mais comment ils vont faire sans moi? Mais je suis indispensable, mais je suis le meilleur, mais je suis bon, mais on devrait encore... Ah, et puis, hein, mais non, Siméon, il sait qu'il n'est pas ce qu'il est par ce qu'il a fait. Il avait sa mission à faire, mais ce n'est pas ce qu'il est. Hein. Il aime plus Dieu que sa mission pour Dieu. Et ça, c'est essentiel. C'est ce qui fait la différence entre vivre pour le royaume de Dieu ou vivre pour construire notre propre royaume sur terre. Je parlais avec des gens qui discutaient s'il fallait continuer de soutenir une certaine activité, un certain travail qui est fait, qui touche des gens partout sur la planète, mais qui amène pas des gens dans l'église bâtiment de ceux qui donnent de l'argent pour que ce truc existe. Puis je me dis, oui, mais ça sert à quoi? Ça nous rapporte quoi? Puis je trouvais ça d'une tristesse incroyable. Ça, c'est pas l'économie de Dieu. Non, on fait ce qu'on a à faire, et puis c'est pour le royaume de Dieu. Et puis nous, quand on a fait ce qu'on avait à faire, on est plein de paix, et puis on passe à l'étape d'après, parce qu'il y a toujours une étape d'après. Il y a toujours une étape d'après. Et elle est magnifique. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on ne s'en va pas pour mourir, et puis c'est fini. Non, on va passer à l'aventure d'après. Et puis il y a toujours une aventure d'après, et passer de cette vie à la vie d'après, c'est encore une aventure. Ben, celle-là, je ne peux pas en parler, je ne connais pas encore de près. Mais on va tous y passer. Hein. Mais ce n'est pas la veille qu'il faut y penser. Ce n'est pas trois mois avant. Mais c'est dès qu'on est capable de réfléchir, de se dire, mais en fait, ma vie, ça va être ça. Alors, soit on s'accroche tellement aux choses que quand finalement, parce que tout nous est arraché à un moment ou à un autre, hein, imaginez si j'avais voulu m'accrocher à mes cheveux, quoi, ça serait terrible. Hein. Non, à un moment, je les ai laissés partir. Et puis, si on veut s'accrocher à rester jeune et beau, ben, beau peut-être, mais jeune, non. Et puis après, il n'y a plus que le « et », après, il n'y a plus rien. Hein. Mais voilà, non, juste, ben, y a des choses, elles vont passer, elles vont changer, elles vont évoluer. Mais on apprend dès qu'on comprend. Et plus jeune on apprend ça, mieux c'est. Je discute de ça avec ma fille qui a 18 ans et c'est super, elle commence d'y réfléchir. Hein. L'étape d'après. Mais pour passer d'une étape à l'autre, en général, il faut laisser les bagages de l'étape d'avant. Puis nous, on aimerait tout amener, quoi. Non, non, non. Voyager léger, parce que suivre l'homme qui marche, c'est pas possible avec 12 camions derrière et puis on ne transporte pas les maisons, les propriétés, les choses comme ça. Il faut voyager léger. Juste ce qui tient dans les poches. Hein. Moi, en général, j'ai toujours un couteau, un stylo et un bout de ficelle dans mes poches. Et je me dis, quoi qu'il arrive, si comme ça je devais partir et pas rentrer chez moi, ouais, à part quelques livres, il ne me manquerait pas grand-chose. Hein. Et on doit apprendre à vivre comme ça dans nos pensées. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'est-ce qui fait que Siméon peut partir en paix? Il est dit qu'il prend le bébé dans ses bras pour le bénir. Il accueille le Christ, le Messie, Et le fait de le tenir dans ses bras et de voir en esprit tout ce qui est contenu dans cette présence-là, ça le libère de tout le reste. Maintenant, tu laisses ton serviteur partir en paix, parce que, s'il est là, j'ai tout, j'ai besoin de plus rien. Et pour nous, on ne pourra pas vivre ces transitions répétées paisiblement si on ne serre pas l'enfant dans nos bras. Même si souvent, moi, je dis que mon image, c'est plutôt que c'est moi qui suis dans ses bras et c'est moi le petit bébé dans ses bras, il me tient. Mais le contraire est vrai aussi. Paul dit, je cours parce que j'ai été saisi par le Christ. C'est pour ça que je vais en avant, que je laisse tout. Et oubliant ce qui est derrière, je fais une chose, je ne pense pas être arrivé. Oubliant ce qui est derrière, je tends vers ce qui est devant. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant, ça c'est mon vocabulaire à moi, mais de cette nostalgie du futur. Parce qu'en fait, tout ce qui a de la valeur que j'ai vécu et que je pense que j'ai dû laisser, si c'est des choses qui ont de la valeur, ce n'est pas perdu. C'est ancré dans le présent éternel. C'est au fond de moi, d'une part, mais aussi c'est quelque chose que je vais, d'une façon que je n'arrive pas à expliquer, que je vais retrouver et que je vais vivre pleinement, parce que c'était des vraies choses qui ont été vécues dans la présence de Dieu. Ce moment où Siméon accueille le Christ comme ça, et ce qui se vit là, c'est un moment éternel, il n'est pas perdu. Et je ne parle pas juste du fait que c'est écrit dans un vieux livre et aujourd'hui on le lit, dans la réalité. Et c'est comme ça qu'on doit vivre, et c'est ce qui va nous permettre de traverser nos vies paisiblement, entre deux crises, entre deux épées qui nous transpercent. Parce que c'est ce qui était annoncé à Marie, et si Abraham est le père des croyants, Marie est la mère des croyants aussi. Une femme avec une foi incroyable. Et c'est dans cette compréhension-là qu'il faut reprendre une des paraboles que j'ai longtemps trouvées les plus bizarres de Jésus. La parabole, c'est dans Luc 17, du serviteur inutile. Vous connaissez cette parabole ? Et le contexte, c'est les disciples disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Jésus dit « Ah, la foi, si vous en aviez un petit peu, vous pourriez faire des choses incroyables ». Façon de leur dire « Vous n'avez pas encore compris ce que c'est la foi ». La foi, ce n'est pas croire que quelque chose. C'est cette confiance dans ce Christ qui est venu à Noël qui fait que je ne suis pas trop inquiet de savoir où on va parce que c'est lui qui tient la barre ou c'est lui qui tient le volant ou c'est lui qui pilote. C'est ça la foi, cette confiance profonde en lui. Et donc, en réponse à cette question des disciples, il leur raconte cette histoire. Un homme qui a des... À l'époque, c'était les esclaves, hein, ce n'était pas les employés comme aujourd'hui, même si des fois on dit « Oh, je suis un vrai esclave », mais là, c'était des vrais esclaves hein, qui avaient... Ils appartenaient à leur maître, ils pouvaient les tuer s'ils voulaient, les vendre, faire ce qu'ils voulaient avec. Quand un serviteur a fait tout ce qu'il avait à faire, il rentre chez lui, avant de se doucher, de manger, qu'est-ce qu'il fait ? Il va encore servir son maître. Et puis, quand il a fait tout ça, est-ce que son maître va lui dire « C'est bien ce que tu as fait ?» Non, il a fait ce qu'il avait à faire. Et vous, quand vous avez fait ce que vous avez à faire, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Puis moi, cette histoire, j'ai... Je veux bien, moi, laisser des choses faire. Je ne demande pas une médaille, une pierre avec un truc gravé. Mais quand même, j'étais un peu utile. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous deviez faire. C'est super. Mais ce n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est pas utile pour que je vous aime. Ce n'est pas là-dessus que se base... vous avez fait ce que vous aviez à faire parce que vous deviez le faire. C'est un sujet qui est parallèle. Vous savez ce que c'est, les parallèles ? C'est deux droites qui sont côte à côte et qui ne se rencontrent jamais. Ce que nous devons faire, ce que nous faisons, et ce que nous sommes, et l'amour de Dieu pour nous, c'est des réalités parallèles. L'une et l'autre cohabitent, elles existent, mais elles n'ont pas de répercussions l'une sur l'autre. Dieu n'aimait pas plus Siméon après qu'il ait accueilli le Christ ou pas, et puis si Siméon n'avait pas mis son réveil ce matin-là et qu'il n'était pas venu au temple et qu'il ait raté le Christ, ça aurait été dommage parce qu'il avait passé sa vie à attendre ça. Mais est-ce que Dieu l'aurait moins aimé ? Non. Et c'est ça. Savoir que je suis un serviteur inutile, ce n'est pas que ce que je fais n'a pas d'utilité. Oui, c'est utile, je fais ce que j'ai à faire. Mais c'est que ce n'est pas utile pour que Dieu m'aime et ce n'est pas ce que je suis. Et du coup, je peux m'en détacher parce que quand j'ai fait ce que j'avais à faire, Ben, ciao les gars, je m'en vais dans la paix parce qu'il y a une prochaine étape pour moi. Hein. Nos actions, quand nous faisons ce que nous avons à faire, c'est comme les étages d'une fusée qui décolle. Et les plus grosses parties d'une fusée, hein, c'est juste pour le carburant. Puis ça nous impressionne, hein, c'est gros, ça part, il y a des flammes et tout. Hein. Puis dès que c'est un petit peu avancé, que c'est sorti, il y a le plus gros étage, il se détache et pouf, il tombe par terre. Ben, il est inutile pour que la fusée continue, mais c'est pas grave. Le but, c'est que la petite capsule qui est au bout, elle arrive là où elle doit aller, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Qu'elle... Hein. Puis c'est pareil avec nos vies. Il y a des choses, on a l'impression, quand on est jeune, hein, wow, puis pouf, on perd les étages les uns après les autres. mais en fait, au bout d'un moment, on réalise, mais c'est pas grave. Un réservoir de carburant vide, à quoi ça sert de le trimballer, quoi ? Ça sert à rien. C'est juste du poids en trop, ça nous alourdit. Hein. À l'époque où j'avais découvert le mouvement des mules, M-U-L, marcheurs ultra-légers, vous connaissez vous ça, hein, c'est des gens qui ont fait une philosophie de vie de marché ultra-léger. Donc, pour donner une idée, quand ils achètent un sac à dos, ils le règlent à la bonne longueur et ils coupent les 2 cm de courroie qu'il y a en plus, parce que c'est 2 grammes. Hein. Et ils font ça partout, sur tout leur équipement, pour au gramme près voyager. Et en fait, après, j'avais vu un petit peu, c'est des gens qui sont assez rigolos, ils ont développé ça en philosophie de vie. Et ils disent, en fait, quand on ouvre le sac d'un randonneur amateur, il y a énormément de kilos en trop, et ils disent, tout le poids en trop, c'est de la peur. Hein ? Pourquoi vous avez 2 pulls ? Ben, si le premier... Non, un pull, ça suffit. Hein ? Pourquoi vous avez 3 gamelles pour... Non, tout le poids en trop, c'est de la peur. Et à un moment, j'ai suivi ce truc-là, je trouvais ça fantastique, parce que je trouvais que c'est une belle philosophie de vie. Tout le poids qui a un trop dans ma vie, c'est de la peur. Hein ? Ah, si j'avais ma maison, si elle était à moi, si ma voiture était payée, si j'avais 3 mois d'avance, si j'avais plus de réserves, si. Et puis, toutes ces choses-là, ben, c'est j'ai re-rempli le réservoir de la fusée et elle ne vole plus, elle est par terre, mais elle est pleine. Ah, super. Elle a tout raté. Le but d'une fusée, c'est de partir et de laisser les choses derrière. Le but de la vie, c'est de vivre. Hein ? Le but de skier, c'est... Moi, je ne skie pas, je ne sais pas skier, mais j'avais un ami qui essayait de m'apprendre en Roumanie. Il me dit, le but de skier, c'est pas de pas tomber. Les gens dont le but, quand ils montent sur des skis, c'est de pas tomber, ils skieront jamais. Le but de skier, c'est de skier, de descendre les pentes. Et des fois, on tombe. Mais si le but, c'est de pas tomber, on ne tombera pas. Hein, on ne skiera pas non plus. Et si le but, c'est qu'il ne se passe rien, ben, on ne va pas vivre. Il se passera de toute façon quelque chose. Rien, c'est la plus triste des choses qui puissent se passer. Et donc, nous, régulièrement, ben, on va vider notre sac à dos. Ben, ça ne sert plus, ça ne sert pas. Ça servait, mais ça a servi. Ça, c'est terminé. Hein. Maintenant, tu laisses ton serviteur partir en paix. Je passe à l'étape d'après. J'ai achevé ma tâche. Ce qui va se passer, c'est l'affaire de Dieu. Hein. Et moi, je continue mon chemin. Et vous imaginez la quantité de frustration qui disparaît si on vit comme ça, mais à toutes les étapes de nos vies, encore une fois, c'est pas juste pour les vieux qui partent à la retraite. Hein. Parce qu'après, il y a encore une autre étape, puis une autre étape. C'est comme ça, c'est comme un oignon. Hein. À chaque fois qu'on a enlevé une couche, on croit qu'il y en a une après, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais après, quand il n'y a plus rien, il y a encore quelque chose. Mais juste de pouvoir le vivre dans cette tranquillité, dans cette paix. Parce que, en fait, un jour, j'ai serré le Christ dans mes bras. Et puis maintenant, ben vous vous rappelez, ça c'était dimanche dernier, hein, le grand dans les petits que nous sommes, celui qui a créé l'univers, ce miracle du grand renversement, le grand dans le petit. Et maintenant, moi qui suis minuscule, même si vous ne me trouvez pas minuscule, je sais, mais je suis minuscule, et en moi, il y a ce grand Dieu qui est là, et que je transporte comme un vieux vase un peu cassé, fissuré, abîmé. Mais dedans, il y a ce trésor. Il y a cette lumière, lumière pour le monde. Et puis, mais ce n'est pas moi qui vais changer le monde, qui vais illuminer le monde. On me traite déjà d'illuminé, ça suffit. Mais juste, je transporte ce trésor, et puis voilà, puis j'avance avec, et puis le reste suffit. Et ça, c'est magnifique. Alors, juste que ce monsieur Siméon puisse être un modèle pour nous, pour hey, j'en suis où dans ma vie, j'en suis là, ben, y a encore une autre étape, ben, je dois laisser ça, mais c'est pas perdu parce que tout ce qui est précieux, ça m'attend devant, et je m'en vais dans la paix et dans la confiance. Et puis je prends mon chemin paisiblement. Seigneur, merci. On te demande que cette paix que tu es venu apporter, même si c'est au milieu des épreuves et des difficultés, elle puisse habiter dans nos cœurs, qu'elle puisse nous accompagner, que dans chaque moment de ces fêtes qui sont là, qui arrivent aussi, nous puissions être dans cette tranquillité intérieure, dans cette paix qui vient de savoir que tu nous as pris dans tes bras, que rien ne pourra nous arracher de toi, que tu nous aimes d'une façon infinie, immense, et que nous sommes en sécurité. Nous voulons continuer notre chemin dans la paix, Seigneur. Cette paix qui n'est pas juste l'absence de guerre, mais l'endroit où tu règnes par ta présence, Seigneur Dieu. Amen.